Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Les jours passent. Lyon est toujours en état de siège, d'alerte. Maurice à Paris est démoralisé. Il se demande s'il avait été trop loin. Sur le papier, c'était bon. Mais dans la vie, c'est autre chose. On est avec des humains. Et non avec des chiffres et des mots. Il se dit qu'à Lyon, c'est plus difficile qu'à Paris. À Lyon, il y a trop d'anards et d'étudiants et de cités. Comment calmer tout ça ? Les autorités locales ne sont pas à la hauteur. Elles font n'importe quoi. Il ne pourra pas vraiment s'occuper, être avec eux. La province qu'elle plaît. Comment vont réagir les autres villes? Cette fois, il ne l'a plus en bloc des instructions, mais il fera des réunions. Petits bouts, des petits comités spécialisés, un jour la mairie, un autre la préfecture, etc., etc. Comme ça, le secret restera bien gardé. Oui, bien gardé. Les jours passent et un après-midi, Judith est à son bureau. Elle lui dit « Ne soyez pas troublée par ce qui s'est passé à Lyon et Paris. Dans quelque temps, ce ne sera plus comme vous voulez souvenir. Ils seront déconnectés par le modernisme. Et puis, ils passeront, mourront avant même que tout ça soit fini. Et puis, vous avez d'autres villes, Grenoble, Marseille, après Lyon. Alors, prenez courage, et lui dit, je vais essayer. Monsieur Dangeanjou est chez lui, à Lyon, il est dans son lit, c'est la nuit. Il n'a plus goût à rien. Il a passé ses journées couchées et ne plus rien faire. À quoi bon? Sa vie est ratée. Il se dit que personne ne lui a dit je t'aime. Il n'a jamais passé une seule fois la nuit avec une personne aimée. Il n'a jamais pu prendre dans ses bras une personne aimée. Qu'on a toujours trouvé laid, vieux. Même lorsqu'il était enfant, on le trouvait laid. Il se dit avec amertume qu'il a toujours été obligé de cacher ses amours, de les cacher à l'être aimé, de les cacher aux autres. Dès sa plus tendre enfance, cachait ses préférences à tout le monde et surtout à sa famille parce qu'il avait honte de ce qu'il aimait et avait peur qu'on le juge. Même pour les choses les plus insignifiantes, il le faisait. Cela le rendait d'une timidité maladive parce qu'il n'osait plus dire quoi que ce soit de peur qu'on se moque de lui. Chaque fois qu'on lui demandait ce qu'il voulait ou souhaitait, il n'osait jamais le dire. Alors, il disait rien. Ce qui le rendait insignifiant et égoïste aux yeux des autres. Il n'a jamais osé demander ce qu'il souhaitait pour Noël, de peur de paraître ridicule ou qu'il en demande trop. Et puis, il n'aimait pas recevoir. Parce qu'il était obligé de jouer la comédie, d'être surpris et content de ce qu'on lui donnait, alors qu'en réalité, il s'en moquait. Toujours faire semblant d'être heureux, alors qu'on n'est pas, parce que si on montre trop sa tristesse, cela prouve que l'on n'aime pas les gens qui vous entourent. Il n'était pas triste à cause des gens qui l'entouraient, de sa famille. Non, parce qu'il savait qu'il faisait ce qu'il pouvait pour le rendre heureux. Mais il n'y arrivait pas parce qu'il ne le connaissait pas. Il ne le connaissait pas parce qu'il se cachait. Cachait ce qu'il était parce qu'il en avait honte, parce qu'il ne se sentait pas comme les autres. Lui était quelque chose d'à part, de raté. Il n'avait pas les mêmes goûts que les autres. Et puisque ses goûts n'étaient pas les mêmes, il était terrible. Alors, il se cachait. Il jouait un rôle, celui qui n'a besoin de rien. Parce que ce qu'il a besoin n'était pas possible. Et toute sa vie, il a caché. À ne pas assouvir ses désirs. Puis, il a pu extérioriser certaines préférences comme dans l'art, grâce à l'art. Il s'est permis de dire certaines choses, mais il a continué à cacher les éléments de son corps. Il en a beaucoup souffert. Maintenant que sa vie est finie, il se dit qu'il n'a rien fait de ce qu'il aurait aimé faire. Il n'a même pas pu extérioriser ses amours. Et jamais dit à une personne qu'il aimait. Au début, il croyait être le seul à être comme ça. Il se disait qu'il devait garder ce secret, qu'il n'était pas comme les autres. Puis, lorsqu'il a compris qu'il n'était pas le seul, il s'est aussi rendu compte qu'il était dangereux de le dire, qu'il n'était pas comme les autres. Puis, lorsqu'il a compris qu'il n'était pas le seul, il s'est aussi rendu compte qu'il était dangereux de le dire et de le démontrer. Il fallait continuer à le cacher à tous, même à sa famille, et aussi à l'être aimé. Il a appris à chercher à séduire les gens par sa culture et rien d'autre. Et l'extérieurement, autrement, comme le souhaitent tous les êtres humains et même vivants, lui était interdit pour lui. Il était un damné de naissance parce qu'il n'était pas né comme les autres. Pour rien, mais il devait le payer en cachant ce qu'il était, en n'extériorisant pas ses besoins d'amour. Sa vie sur Terre devait être un cauchemar à cause d'une chose dont il n'y était pour rien. Donc, pour séduire, il s'était fait une très grande culture. Pour pas ennuyer et pour passionner l'être aimé. Il avait surtout peur de l'ennuyer. Cette façon de se séduire le faisait beaucoup souffrir. Il avait près de lui cet être désiré et ne pouvait même pas le toucher du bout des doigts ou lui dire d'une façon très chaste son amour. L'amitié était déjà à l'époque devenue une chose terrible. La vulgarisation de la psychanalyse a fait croire aux gens qu'ils étaient capables de connaître le caractère d'une personne en un rien de temps. Et depuis chaque mot, chaque geste a une connotation sexuelle pour Monsieur Tout-le-Monde. Il fait que les gens trop sensibles, timides, comme Monsieur de Jean-Jus, n'osaient plus faire un geste ou dire un mot très amical. Ils auraient eu peur, c'est d'être traités de pédés ou pire. Pourtant, lisez les romans d'avant Freud et vous verrez que la virilité n'empêche pas une certaine douceur entre les gens. On criait. On hurlait, on se battait, et aussi on pleurait, et on se réconfortait par des caresses, sans être traité de pédé. Le rouge et le noir, la chartreuse de Parme, et tous les personnages de Balzac, etc., etc. Donc, M. de Changy a souffert toute sa vie de ne pouvoir extérioriser ses sentiments, et même à ceux qu'il croyait être comme lui, et qui auraient accepté d'avoir des relations tendres avec lui. Combien de gens aimés, combien de désirs refoulés, refusés, combien de souffrances. Tout cela parce qu'il avait honte de ce qu'il était. Je me souviens d'avoir pleuré pendant des nuits entières parce qu'il ne pouvait pas extérioriser son amour. Il se souvient d'avoir eu peur pendant des jours, peur que l'être aimé comprenne ce qu'il était. Il se souvient d'avoir dépensé des fortunes de cadeaux pour plaire à la personne. Il se souvient qui souffrait tellement lorsqu'il était près de l'être aimé qu'il préférait ne pas la voir et rêver à elle seul. Il était trop tendu et près d'elle cela le rendait malade. Que d'années perdues à essayer d'être aimé, que de souffrances. Et cette tristesse, après de nombreuses années, revoir la personne aimée changer, plus la même, et se dire, il est trop tard, elle n'est plus et ne sera plus jamais celle que j'ai connue. Un amour perdu à jamais. Alors il se disait que peut-être il aurait dû essayer, peut-être qu'elle aurait dit oui. Maintenant, c'est trop tard. Souviens, un jour, une personne très belle, jeune, elle était d'une extrême gentillesse, un ange. Un jour, comme ça, dans le jardin du Luxembourg, ils étaient tous deux assis sur un banc, la personne lui dit, si vous voulez, nous pouvons, je veux bien. Sans hésiter, avec douceur, M. de Changy lui dit « Non, je ne veux pas. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup d'amitié pour vous et je ne veux pas vous faire du mal. » Ils n'en ont plus reparlé. Et chaque fois que Monsieur de Janjou passait devant chez la personne, elle accourait pour lui dire bonjour en lui tendant la main tendrement. Même si cette personne était occupée à autre chose, elle arrêtait tout pour le faire. Ce geste de sincère amitié, d'estime, pour lui prouver. Qu'il aimait son geste et le sacrifice qu'il avait fait. C'est la seule personne qui a proposé à Monsieur de Janjou et c'est la seule personne qui lui a démontré du respect tout en sachant ce qu'il était. Monsieur de Janjou ne regrette pas son geste. C'est un geste d'amour, ce refus, qui pourtant il était dû à une personne de très grande beauté et gentillesse. Il se dit qu'elle était sincère et qu'elle devait garder, à cause de son geste, un souvenir amical de lui au-delà des années. Sûrement que cette personne est devenue maintenant une vieille personne comme lui, qu'elle a dû se marier, avoir des enfants, peut-être des petits-enfants. Comment est-elle maintenant? Monsieur de Janjou a la gorge serrée dans son lit. Il revoit le beau visage de cette personne, et cette personne qui a eu de l'estime pour lui, et ceci en sachant que ce qu'il était. La vie est triste, pleine de remords. Elle est jonchée de cadavres, mais pure d'être disparue à jamais, parce que défigurée par le temps. On croise un beau visage, l'on se retourne. Et il n'est plus le même. Plus jamais on ne le reverra comme ça. Cela fait mal, le temps qui passe. Monsieur de Janjou en a vu des beaux visages, même par des images, parce que ces images peuvent rester éternellement belles. Monsieur de Janjou a le cafard, seul dans son lit, la nuit, n'a pas son savoir, ses œuvres d'art pour l'aider à vivre. Il voit le visage de Gilbert, se dit que celui-là aussi a un beau visage. Il se dit que c'est bien que l'on a encore des beaux visages dans la jeunesse. Mais ceux qu'il a aimés ne sont plus. Monsieur de Janjou se sent seul. Dans la nuit, il se dit que peut-être, et même sûrement, il mourra seul, dans son lit, dans la rue, en voyage, mais seul, toujours seul. Les jours passent. Gilbert habite toujours son hôtel du Marais, l'ancien hôtel de la Pompadour. Son père n'y a pas encore organisé des fêtes et... ne lui a rien demandé. La nuit, les visites sont arrêtées, mais il reste sur ses gardes. Il dort normalement, n'a plus son sommeil de plomb. Les jours passent. Maurice est dans son bureau. Le téléphone sonne. Il décroche.
Oui.
Monsieur, c'est le Premier ministre allemand.
Bien, je prends. Allô?
Bonjour, mon cher Franblanc. Comment allez-vous?
Très bien, je vous remercie.
Je vous téléphone parce que les élections approchent et j'aimerais... savoir quand est-ce que vous commencez les travaux chez nous.
Je ne sais pas encore. J'ai beaucoup de retard en France pour le moment.
Il faudra faire vite.
Je vais étudier ça, mais ça ne va pas être facile.
Bien, je compte sur vous. À bientôt.
Oui.
Et il raccroche. Le soir, Maurice, en rentrant chez lui, est démoralisé. Il va retrouver sa femme au salon.
Entrez.
Bonsoir. Va s'asseoir en face d'elle. Va s'asseoir en face d'elle. Et lui demande,
ça ne va pas, tu as l'air d'être très fatigué.
Et lui dit, je suis un peu déprimé et je me demande si ce que je fais est vraiment bien.
Comment ça?
Eh bien, est-ce à moi de décimer les gens? De les mettre dans des camps. Mon rôle, c'est de faire des immeubles. Mais non des sélections. Je n'ai pas à sélectionner les gens.
Elle lui dit, mais tu ne sélectionnes pas. Il faut bien que tu expulses pour démolir et construire. Bon.
Il lui dit, oui, bien sûr. Mais tu sais bien ce que ça veut dire. Pour les pauvres gens qui vont se retrouver dans des zones.
Elle lui dit, cela ne nous regarde pas. Et puis, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? À Lyon, tu étais en pleine forme. Tu préparais ton plan d'action et maintenant?
Oui, mais toutes ces bagarres, ces tueries m'ont fait un peu réfléchir. Je crois que je vais tout laisser tomber.
Réfléchis bien, parce que si tu arrêtes, une autre entreprise prendra le contrat et tu seras ruiné.
Il soupire et lui dit, bien, je vais réfléchir. Mais des fois, il vaut mieux s'y être ruiné que de faire certaines choses.
Et soupire, il dit, réfléchis bien. Pense un petit peu à nous, à ton fils. Tu veux boire quelque chose?
Oui, un cognac. Elle appuie sur la sonnette.
Au sous-sol de la maison, dans un coin, se trouve le maître d'hôtel à une table. Il a un casque aux oreilles et sur la table, une table de mixage où est relié des micros. Il y a des micros dans toute la maison, on peut tout entendre. En plus du personnel qui a fait embaucher Judith pour surveiller les francs blancs, ils ont ajouté les écoutes dans le téléphone, toutes les pièces, des micros très sensibles ont été mis sous la tapisserie. Ils sont ultra plats, il a fallu décoller légèrement le papier et y mettre le micro. Les micros autour de la maison. Tout ce qui se dit est relié à un magnétophone et enregistré, écouté, et ça peut être aussi écouté en direct. Les appareils téléphoniques, les appels téléphoniques, les numéros aussi sont enregistrés. Tout ce qui se passe par ordinateur. Comme cela, l'on connaît leur entrée, sortie d'argent, ce qu'ils achètent, vendent, ce dont ils parlent, leur goût, maladie, déplacement, etc., etc. Grâce au numéro de la carte qui sert de carte bancaire, sécurité sociale et d'identité, ils peuvent avoir accès à toutes les informations qu'ils veulent. Pour le fils, le dispositif n'a pas été fait et l'on hésite car c'est celui qui est. Ça ne serait pas très respectueux de le faire, mais on y pense tout de même. Le maître d'hôtel, après avoir entendu cette conversation importante, la passe par internet chez Judith, qui va la recevoir en différé chez elle. Un dispositif lui dit qu'elle reçoit un message urgent sur son ordinateur.
Elle va à son ordinateur.
Le met en route.
Cette fois, c'est la conversation. Qui a été enregistrée. Elle écoute le message. Le lendemain matin, en arrivant au siège, elle va à son bureau. Prend son téléphone. Allô? Harold? C'est moi, Judith. J'aimerais c'est que vous puissiez venir, s'il vous plaît. C'est très urgent. Bien, j'arrive. Et elle raccroche. Le téléphone sonne. Elle décroche.
Madame, Monsieur Harold est arrivé. Bien, faites-le entrer.
Le voyant de la porte s'éclaire. Il appuie sur le bouton vert. La porte s'ouvre. Apparaît Harold. Elle lui dit, venez vous asseoir, mon cher Harold. Et il va s'asseoir en face du bureau. Elle lui dit, excusez-moi. Je vous ai fait venir, c'est pour une affaire très importante. Voilà, Franblanc est en train de nous filer entre les mains. Il lui demande, comment cela? Elle lui dit, eh bien, d'après ce que nous avons entendu hier au soir, une conversation avec sa femme, qui est, entre parenthèses, moins stupide qu'on le croyait. Elle connaît ses intérêts, elle au moins. Lui a du vague à l'homme. Elle a l'intention de tout laisser tomber. Il lui dit, mais c'est impossible, il est fou. Il réfléchit, il dit, je ne peux pas compter sur lui. Eh bien, Autant passer à la phase suivante. Elle lui dit, j'aimerais bien, mais c'est impossible. Le fils n'est pas prêt. Ce serait une vraie catastrophe. Vous vous rendez compte? Si lui, le maître, refusait de marcher avec nous, nous ne pourrions plus rien faire. Nous avons encore besoin du père. Mais il faut accélérer la formation. Et après, nous éliminerons le père qui nous est rien, lui. Harold lui demande, pour ce qui est du plus urgent, que devons-nous faire? Elle lui dit, il faut lui remonter le moral, lui dire qu'il ne peut pas lâcher une société comme ça. Ça ferait des milliers de chômeurs et une vraie catastrophe pour la France. Vous allez venir avec moi, nous allons lui parler, ensemble, allez. Elle prend son téléphone et fait un numéro. Allô, bonjour, je suis Judith. J'aimerais avoir un rendez-vous pour un entretien très urgent avec le président. Bien, je vais voir madame. Après un peu d'attente, elle lui dit, monsieur le président, peux-vous recevoir que demain à 9h30? Bien, merci. Elle raccroche. Elle dit à Harold, malheureusement que demain matin 9h30. Harold lui dit, peut-être que la nuit lui portera conseil. Le lendemain, à 9h30, ils vont tous les deux au bureau du président.
Entrez. Ils entrent dans le bureau de Maurice. Venez vous asseoir. Ils vont s'asseoir en face du bureau.
Maurice leur dit, vous avez demandé à me voir, je vous écoute. Judith lui dit, j'ai appris, monsieur le président, c'est que vous aviez l'intention d'arrêter les rénovations, de stopper la construction. Il est surpris et lui dit, qui vous a dit ça? J'en ai parlé à personne. Elle lui dit, c'est-à-dire que nous vous voyons déprimés, inquiets. Alors nous sommes dit que peut-être, mais enfin, cela a sans doute dépassé vos idées. Il ne faut pas arrêter ce projet. Si vous arrêtiez, c'est la faillite et le chômage pour des millions de personnes. Une vraie catastrophe pour la France, Maurice dit.
J'avais cette pensée, il est vrai, que l'on me fait faire des choses assez repoussante. Et je me disais que si j'arrêtais, ce serait sûrement plus moral pour moi, au lieu de me lancer dans ce genre de choses.
Elle lui dit, ce que je veux vous dire, c'est que c'est impossible que vous arrêtiez. Pensez à nous, aux autres. Et puis, si c'est pas vous qui faites ce travail, ce sera une autre personne. Et là, il sera peut-être moins humain que vous. Harold lui dit, pensez aussi à votre fils qui lui a besoin de la société pour son avenir. Faites-le pour lui.
Maurice lui dit, mon fils n'est guère intéressé à tout ça.
Il lui dit, pour le moment, mais pour changer, vous savez.
dans l'histoire dit.
Bien. Ce n'est pas parce que j'ai eu un peu de cafard qu'il faut croire que tout est fini. Je vais me remettre, me remonter, et nous allons continuer notre tâche.
Harold lui dit, j'en suis très heureux, monsieur, surtout que pour cette chose très désagréable, j'ai des idées qui pourront nous débarrasser de ces tâches. Je vous en parlerai plus tard. Maurice leur dit,
bien. Nous allons continuer.
Et il se lève. Tous les deux. Au revoir, monsieur le président.
Au revoir.
Harold et Judith l'ont quitté et vont dans le bureau de Judith.
Une fois dans son bureau, Judith dit tout bas, tenons-nous tout de même sous nos gardes.
Maurice, dans son bureau, réfléchit. Il se demande comment ils ont pu savoir qu'il avait envie d'arrêter. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. La troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu, Lionel Morzetti.